Salut les rebelles intelligents, donc je suis actuellement, vous les avez peut-être reconnus, avec la famille Coste. Hello, alors les enfants sont pas là, ils sont en train de jouer. Vous êtes fait connaître parce que, bah, en gros, vous êtes en train de voyager dans le monde entier avec votre camping-car, avec
caravane.
Votre caravane, avec votre 4x4 qui est là, garé sur le parking.
C'est ça.
Et avec vos deux enfants. Et le troisième qui arrive bientôt.
C'est ça.
Waouh, là c'est au cinquième mois déjà, c'est ça.
Oui.
Et voilà, vous avez une chaîne YouTube qui cartonne, on est à près de 20 millions de vues, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
165 000 abonnés.
165 000 abonnés, bientôt vous allez dépasser ma chaîne. Et vous cartonnez aussi sur Instagram, on a regardé tout à l'heure, vous avez 58 000 abonnés. Quand ils font une story, les amis, ils ont à peu près la moitié des abonnés qui regardent, c'est même plus que ça, c'est incroyable.
C'est entre 35 et 40 000.
C'est un taux d'engagement absolument démentiel. Et voilà, vous gagnez votre vie en faisant ça.
C'est ça.
C'est vraiment le job de rêve.
C'est carrément, bon, en fait, on gagne notre vie en faisant ce qu'on avait envie de faire, en fait. Faire des vidéos et voyager.
Et donc là, on est à Panama City. Par pur hasard, en fait, on était au même endroit, au même moment.
Oui.
Il y a un abonné commun qui t'a envoyé un message. J'en ai, attends, il y aura le Panama. Et du coup, tu m'as contacté, puis voilà, on s'est vu. Vous voyez, c'est la magie d'avoir des audiences globales, c'est vraiment incroyable.
C'est clair.
Et donc voilà, on en profite, là, c'est complètement impromptu, on n'avait pas du tout prévu ça. On fait une petite interview.
Ça l'arrache, hein.
Et c'est vraiment rigolo parce qu'à la base, Sébastien, on s'est rencontré en 2011. On s'était vu,
on a été manger à Lille. J'étais venu te voir à Lille et puis. Quand tu as lancé le Blogueur Pro. En fait.
Pour la première fois.
Ouais.
À l'époque, tu travaillais pour un Québécois qui s'appelle Stéphane.
En fait, j'étais allé faire un stage au Québec auprès de Patrick Leroux pour apprendre les ficelles de la vente et du marketing et du métier de motivation et de conférencier. J'ai jamais fait ça finalement, mais par contre, j'avais lancé un blog à l'époque en suivant des formations et tout ça qui s'appelait Sébastien Coste.
Tu veux dire, en suivant les conseils gratuits que je donnais sur le blog à l'époque?
Il y avait ton blog à l'époque.
Et après, tu m'as dit, voilà, tu t'intéresses par Blogueur Pro, tu t'es inscrit.
On s'est inscrit sur le
truc, ouais.
Et j'ai jamais gagné ma vie à l'époque avec mes blogs. Ça a toujours foiré. On a démarré, après, on s'est rencontrés en début 2011.
Ouais.
Et on a sorti un blog sur les couples heureux.
Ouais.
On a toujours été bon pour faire de l'audience, mais on n'a jamais été bon pour vendre un produit. Il doit y avoir un blocage quelque part qui fait que.
On a toujours suivi tout ce qu'il y avait justement dans la formation Blogueur Pro. Moi, j'ai énormément appris parce que c'était pas du tout ma vocation à la base. J'ai fait des études de droit, j'étais au pair quand on s'est rencontrés en janvier 2011. Donc, c'était vraiment pas du tout mon domaine en fait. Mais je trouvais ça génial en fait. Je trouvais ça tellement excitant. Il y avait un truc incroyable de me dire qu'en fait, on pouvait en vivre, on pouvait faire quelque chose qui nous passionnait.
Et d'être libre.
Et du coup. C'est ça. Et du coup, en fait, je me suis plongée aussi à corps perdu dans la formation. Et on la faisait ensemble, on emménageait ensemble. Et on a développé aussi justement un deuxième blog pour moi. Alors finalement, on l'a pas...
Et puis Success School.
Après, il y en a eu, on en a fait un troisième.
Tu parlais d'éducation pour les enfants.
C'est ça.
Et puis moi, j'ai sorti Investir pour changer de vie.
Le quatrième.
Ça a planté aussi.
Et puis, on a
voilà,
fini
donc,
par sortir Family Coste.
Voilà, donc Success Stories.
Et donc, on a sorti Family Coste en... 2016.
Début avril 2016.
Donc, ils partageaient vos voyages déjà.
Voilà,
c'est ça.
Et ça, par contre, ça a explosé.
Je pense que ça fonctionnait aussi parce qu'on avait beaucoup appris de nos erreurs et puis qu'on avait aussi un certain background au niveau du fonctionnement, de comment ça.
On du marketing sur le
c'est ça, de ce qui fonctionnait. Et puis, on avait aussi vu ce qui fonctionnait pas. Donc, en fait, je pense que mis entre ce qu'on avait appris par la formation et ce qu'on avait appris par nos expériences, on était capable d'arriver à faire un mixte et finalement au bout du cinquième projet réussir.
En fait, surtout ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on était bon pour faire de l'audience. Donc on s'est dit, on va essayer de se diriger vers une autre niche, celle de l'influenceur, et ça a marché. Et du coup, là aujourd'hui, on en vit en tant qu'influenceur et pas en tant qu'infopreneur, mais tout ce qu'on a appris dans le passé au niveau du web marketing nous sert aujourd'hui.
Et tout ce qu'on ne voit pas dans les vidéos, tout ce qui se fait derrière, c'est des choses qu'on a appris justement.
Déjà rien que le lancement de la chaîne YouTube, on s'est servi de tous nos contacts aussi sur Facebook. On a utilisé des techniques marketing pour parler aux gens, pour les influencer à parler de nous au début. Et c'est ce qui a fait que ça a marché. Et tout ça, on l'a appris sur le web en fait. On n'a pas appris ça ni à l'école, ni nulle part d'autre.
Et pour ceux qui se demandent quelle est la différence entre infopreneur et influenceur, en fait, la grosse différence, les deux utilisent du contenu qu'ils vont publier sur le web pour générer une audience, etc. La grosse différence, c'est dans la manière de monétiser cette audience. Typiquement, l'infopreneur va vendre des produits, donc e-book, formation, ça peut aussi être des produits physiques, comme on le voit avec Bonne Gueule par exemple, qui vendent des vêtements. Mais l'influenceur, lui, va plutôt monétiser son audience via des placements de produits. Donc, il va être payé par des marques pour glisser des informations sur des produits dans du contenu.
Voilà.
En fait, le produit, c'est nous. On est le produit, en fait.
Voilà, donc c'est la grosse différence. Il y a aussi des différences fondamentales entre les deux, c'est que typiquement, l'infopreneur va avoir un taux d'engagement qui va être moindre dans son audience. Là, typiquement, avoir plus de 50% des abonnés sur Instagram qui regardent une story pour un infopreneur, c'est un autre monde. Je ne comprends pas comment vous pouvez faire ça.
En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de clientèle, en fait, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une clientèle vu qu'on ne vend rien. Et du coup, forcément, ça attire plus des gens qui regardent du divertissement.
Les gens nous considèrent plus comme des amis, en fait.
C'est comme vous êtes Game of Thrones, en fait, pour les gens qui aiment voyager.
On l'a déjà dit.
En fait, les gens qui nous regardent, ils regardent une série. Que quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui fait du web marketing comme toi, ils vont aller regarder une vidéo
pour apprendre
quelque chose de bien précis. Par exemple, moi, je regarde pas du tout toutes tes vidéos, mais il y a des fois, il y a un titre qui m'accroche.
Oh my God, ah, la révélation. Tu brises mon petit cœur fraîche.
Mais je pense que c'est quasiment tout le monde. Je pense qu'il y en a très peu qui regardent toutes tes vidéos.
Ouais.
Et par contre, quand il y a un titre qui accroche et qu'il y a un truc qui m'intéresse, c'est là que je vais aller voir. Et c'est plus comme ça que ça va.
Voilà.
Après, par contre, c'est différent. Tu gagnes ta vie autrement que nous. C'est pas la même.
Mais je pense que les deux sont complémentaires, en fait.
Mais clairement, on peut quand même dire que les infopreneurs, ils gagnent beaucoup plus d'argent à trafic égal qu'un influenceur. Ça, c'est clair. Mais souvent, ils ont moins de trafic aussi parce que c'est plus difficile de toucher les gens pour les parler du divertissement.
C'est différent, en fait. C'est complètement différent. Nous, on vit sur le trafic. Donc, plus on a de l'audience, plus on peut gagner notre vie. Et toi, c'est sur le panier moyen. Plus il est élevé, plus tu peux gagner ta vie.
Voilà, une audience importante est c'est utile, mais l'audience, ce qui est plus important, c'est la qualification finalement.
Oui, complètement, c'est sûr.
Avoir beaucoup de gens qui viennent juste regarder une vidéo pour regarder une vidéo, c'est pas très intéressant pour un infopreneur.
Que nous, plus on en a, plus c'est exponentiel.
Ouais, c'est ça.
C'est ouf.
Et donc c'est vrai que dans Blogueur Pro, je n'enseigne pas comment devenir influenceur, j'enseigne comment devenir infopreneur.
Oui, parce que finalement, les infopreneurs, souvent ils connaissent les influenceurs, mais ils la regardent un petit peu avec dédain parce que clairement, ils font beaucoup moins d'argent qu'eux à trafic égal, donc ils se disent, voilà, c'est des gens qui ne savent pas comment faire de l'entrepreneuriat. Et finalement, c'est comme pour tout, finalement, il y a toujours des choses bien à prendre dans chaque milieu.
Il y a toujours du positif et du négatif dans tout, de toute façon.
Ouais.
Donc, comme tu dis, carrément.
Et vous arrivez à faire la fusion des deux. Et donc, Blogueur Pro, ça vous a aidé à avoir le
fait. Par exemple, les modules où tu parlais du trafic, carrément, ça aide. Quoi. Donc,
puis même au niveau de la création, de l'étude de marché, au niveau de la manière dont on a créé le blog, etc. L'importance aussi d'avoir une liste email, même si forcément notre liste email est beaucoup moins active qu'un infopreneur. Mais voilà, c'est des choses dont on a conscience et dont on sait aussi se servir. Et je pense justement que c'est important de le savoir, en fait, pour pouvoir... bien souvent, malheureusement, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais les influenceurs tombent dans le marketing d'influence sans vraiment l'avoir planifié. Nous, c'était vraiment une volonté, ça faisait partie des choses. Quand on a lancé la chaîne, on a toujours été très honnête, c'était une chose très importante vis-à-vis des gens qui nous suivaient dès le départ. C'était de dire ce qu'on visait, ce qu'on espérait, ce à quoi on aspirait et pour lequel on travaillait pour. Et donc, du coup, le fait de savoir tout ça faisait aussi qu'on était conscient de vers où on voulait aller et on savait comment s'y prendre. Mmh. Alors, c'est sûr que ça n'a pas été aussi simple que ce qu'on aurait voulu. On a eu des galères, ça a pris beaucoup plus de temps et tout. Mais par contre, le fait de le savoir nous a beaucoup aidé. Alors que quand on navigue dans quelque chose où finalement on ne sait pas, on est arrivé là, mais on ne sait pas comment ça fonctionne.
Il y a aussi un truc qui a bien marché aussi avec FamilyCause des débuts, c'est qu'on a été complètement naturel et à l'aise, en fait. Mmh. Et dans les premiers projets, au début, quand tu démarres et que tu te filmes en vidéo et tout ça, t'es pas toi en général parce que tu essayes d'être quelqu'un d'autre. Et au bout du quatrième, enfin là c'est le cinquième projet, là on s'est dit, allez, on tente une dernière fois, mais
en gros, de toute façon, on n'a plus rien à perdre.
Voilà, on a plus rien à perdre.
Vas-y, là, c'est bon.
Et on a vraiment été nous dès le départ, et ça, je pense que c'est ce qui a fait aussi une grosse différence, d'être beaucoup plus naturel et détendu et pas jouer le rôle de. Pas jouer un rôle, en fait. Je pense que ça a beaucoup aidé.
Et d'ailleurs, aussi une caractéristique qui vous différencie de la plupart des influenceurs, c'est que vous comprenez l'importance de la liste email.
Oui, parfaitement.
Ouais, alors que là, il faut le reconnaître quand même. La plupart des influenceurs, ils ne sont pas compris.
Alors, on ne l'utilise pas assez, mais par contre, on a déjà proposé, par exemple, en affiliation des produits, on envoie un petit mail en plus d'en parler dans...
Non, bien sûr, on a entièrement conscience de tout ça. Et en plus, comme nous, on n'a pas cette rivalité d'infopreneurs, influenceurs, etc., nos meilleurs amis sont des infopreneurs et ils gagnent très bien leur vie grâce à leur blog. Et donc c'est vrai que du coup on a toujours des discussions très intelligentes à la fois avec eux parce que bah, du coup nous on leur donne des conseils sur certaines choses et eux nous donnent des conseils sur d'autres choses. Donc en fait je trouve que c'est vraiment très complémentaire et très intelligent finalement de ne pas se fermer en disant ça c'est mal, ça c'est pas bien, oh ils vendent des produits, oh quelle horreur, oh ils vendent leur audience,
c'est pas bien non plus. C'est un peu ça, hein, les influenceurs, ceux qui vendent des produits, ouais, c'est n'importe quoi, ils vendent du rêve.
Je pense qu'on a vraiment à apprendre des deux côtés.
Il y a beaucoup de clichés de la part des influenceurs là-dessus.
Et les web marketeurs disent ouais, il faut pas travailler pour vendre des publicités, par exemple.
Alors que le boulot derrière est colossal aussi. Enfin, je veux dire, c'est juste que.
Et peut rapporter pas mal d'argent aussi. Donc il y a du bon à prendre des deux côtés, en fait.
Bon, moi j'aime bien ce genre d'approche qui essaie de faire la synergie entre deux choses.
Je crois que c'est ce qui peut fonctionner finalement, de ne pas être trop fermé parce que du coup c'est comme ça qu'on peut découvrir des choses.
En fait on a toujours suivi les opportunités et puis on a suivi notre instinct aussi, on en parlait tout à l'heure hein, quand on était en train de manger, tu nous demandais pourquoi on ne sort pas un produit. En fait on a sorti un produit, on a fait tout le lancement orchestré comme on l'a suivi d'ailleurs, on a revu les premières vidéos. On a tout revu, on a tout suivi à la lettre, on avait fait plus de 3000 commentaires.
Du module sur le lancement de Blogger,
oui,
c'est ça,
ouais. Oui.
Vous avez suivi la formule.
C'est ça.
Ça a cartonné. Vous avez fait plein de ventes en quelques minutes,
En quelques minutes.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, c'est incroyable, hein, franchement.
Au moment où l'argent était en train de tomber, on a tout coupé, on a fermé.
Ouais. Wow. En fait, à chaque fois que l'argent tombait, au lieu de nous rendre heureux,
c'était un produit à 1 000 $.
Ça nous faisait très mal.
On était très mal.
Et du coup, on s'est dit non, mais en fait, c'est pas ce qu'on est censé faire.
Parce qu'en fait, on voulait pas être engagé sur du long terme sur quelque chose parce que nous, on est parti. L'objectif du départ, c'est la liberté en fait. Et on s'est senti un peu prisonnier avec cette formation-là.
Liberté qu'on retrouve aussi beaucoup chez les infopreneurs, mais qu'on va moins retrouver chez les influenceurs, qui eux peuvent être influenceurs finalement en restant chez eux, etc. Mais les infopreneurs aiment beaucoup bouger. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a aussi en commun avec les infopreneurs, c'est le fait d'être digital nomade.
En fait, pendant tout le lancement, on n'arrêtait pas de se prendre la tête, on s'engueulait beaucoup et tout, on était stressés.
On a vraiment eu plein de problèmes qui nous montraient qu'on était pas sur
la bonne voie.
Et du coup, on a pesé les lancements, c'est stressant, c'est clair. C'est le moment de l'année où vous avez travaillé le plus.
Ça m'a été tellement stressé qu'on a failli perdre notre fille. Donc, du coup, voilà.
Oui, il y a eu ça aussi. Elle a fait la pneumonie et tout. Puis, tout ça mis ensemble, on s'est dit. Parce qu'en fait, on croit beaucoup aux signes de la vie. Et je sais pas, il y avait plein de signes qui faisaient que.
Mais en fait, on s'était dit, on a tellement tout préparé, tout fait, on peut pas arrêter maintenant.
On allait jusqu'au bout et quand vous avez commencé à gagner plein d'argent, vous avez dit non, en quelques minutes il y a eu 4-5 ventes et à chaque fois les premières ventes, en fait, à la place d'être content,
je crois qu'on espérait
que ça marche pas en fait.
Oui, moi j'espérais que ça marche pas.
Vous êtes les seuls à ma connaissance, pour beaucoup d'entrepreneurs et tout ça, qui ont arrêté leur lancement parce que ça marchait trop bien.
Ce qui est marrant, c'est que le jour où on a fermé les ventes, du jour au lendemain, on a commencé à avoir plein de contrats encore en plus pour le métier d'influenceur.
Après, ce qu'on appelle l'écho du lancement, c'est que un lancement, c'est pas seulement une manière de gagner de l'argent, c'est aussi une manière de se positionner, de générer beaucoup de buzz par rapport à ça. Ça a pu être peut-être un facteur. C'est intéressant. Ok, pas de regret alors par rapport à ça?
Non, après,
quand tu nous parles de tes chiffres d'affaires et tout ça, c'est sûr que. Alors, c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui se dit, c'est un peu con parce qu'on laisse l'argent sur la table, mais il y a une autre partie aussi qui fait que.
On aurait laissé trop.
Aujourd'hui, en fait, le but principal de la vie, c'est de réussir à être heureux la majeure partie de son temps. Mm-hmm. Et on est heureux. On gagne quand même bien notre vie aujourd'hui. Et
vous avez une finale.
Et c'est exponentiel, en plus, ça monte, donc ça ne peut faire que monter. Donc, puis si un jour YouTube ferme ou un truc comme ça, on dira
on a l'habitude de se renouveler.
On a le temps.
Donc, ça ne fait pas peur en tout cas, puis si c'est le cas, c'est pas grave. L'essentiel, après une fois, c'est juste. C'est quelque chose qu'on a créé, mais on recréera autre chose. Enfin, c'est en bonne voie,
ça peut faire qu'augmenter si on ne fait pas de conneries. Et du coup, on est bien comme ça en fait. Donc.
Vous voyez, les rebelles intelligents, c'est intéressant. Il n'y a aucune formule qui convient à tout le monde.
Votre
histoire, c'est aussi une histoire d'exploration. D'abord, une féroce envie de réussir. Vous n'êtes pas laissé démonter, vous avez laissé plein de trucs.
Il y avait une féroce envie d'être libre en fait.
C'était vraiment une liberté qui nous a fait.
Réussir sur le web, on a fait du marketing de réseau aussi. En fait, tout ce qui peut nous permettre d'être plus libre et d'avoir une vie différente de la majorité des gens et de pouvoir être où on veut, quand on veut, c'était ça qui nous fallait. Donc,
c'était vraiment viscéral. Ouais, hein. Ouais. Il fallait qu'on arrive à se débarrasser.
Après, on a fait des boulots de merde aussi.
Ça n'a pas été rose.
On a fait une plus-value en immobilier qui nous a permis de partir au Canada et qui nous a permis aussi de démarrer Family Cost. Parce que quand on a démarré Family Cost, on avait quand même pas mal d'argent derrière nous pour avoir 2-3 ans tranquille et démarrer sans pression. Ça a été bien aussi. C'est qu'on n'avait pas de pression financière derrière nous pour démarrer, et puis on s'était dit si ça marche tant mieux,
si ça marche pas dans deux ans,
on revend la caravane et le pick-up, on a 50 000 euros
et on redémarre sur autre chose.
Voilà, c'est très intéressant comme état d'esprit, voyez. Donc exploration, on essaie de trouver la formule qui nous convient le mieux par rapport à nos valeurs, à notre manière de fonctionner, tout ça. Vous ne laissez pas démonter par les échecs et vous mettez en place finalement des expériences avec des risques minimes, puisque vous avez des sources de revenus, vous savez que dans le pire des cas vous pouvez toujours retomber sur vos pattes, etc. Et ça, c'est pas mal, quoi. Il y a tellement de gens qui rêvent de faire ce que vous faites et qui finalement ne prennent jamais même les risques de base qu'il faut pour s'en sortir un peu à l'autre.
On aime bien de dire c'est quoi le pire qui peut arriver.
Il n'y a rien en fait
parce que l'argent.
À partir du moment où notre santé n'est pas en jeu, pour nous il n'y a rien de pire.
Il y a des gens qui disent mais vous avez une famille, pensez à vos enfants et tout ça.
Les enfants, on passe notre vie avec nos enfants, on se régale d'être avec nos enfants. On est là le matin quand ils se réveillent, on est là pour les coucher le soir, on est là toute la journée avec eux. Quand ils ont besoin de nous, ils jouent ensemble depuis une heure.
Extraordinaire.
Ils sont tout seuls parce que quand ils ont besoin, on est là.
Il y en a un qui est canadien et français.
C'est ça.
Voilà, déjà c'est un beau cadeau à la naissance.
Carrément.
Donc on aime être ensemble, c'était aussi un but, c'était être libre et être ensemble. Et je crois qu'on a aujourd'hui, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui on a trouvé notre équilibre. Et puis voilà, maintenant on se plaît à faire de nouvelles choses.
Même avec des enfants, en fait, c'est pas impossible. Hein. Il y a plein de gens, ils veulent pas démarrer parce qu'il y a des enfants, parce que c'est en famille et tout. C'est plus compliqué que tout seul ou en couple. Mais c'est pas impossible, il faut juste s'organiser autrement, il faut prendre plus le temps que quand on est tout seul, parce que tout prend 10 fois plus de temps, forcément.
Mais je crois que en fait, c'est assez représentatif de la vie, de toute façon, dans une famille. À partir du moment où un couple a un enfant, sa vie est plus compliquée. Enfin, compliquée, je dis pas ça dans le sens péjoratif, au contraire, j'adore mes enfants, je verrais pas ma vie sans eux. Mais tu dois t'adapter. Donc en fait, voyager avec des enfants, c'est juste l'adaptation du voyage d'avant. Il n'y a rien d'insurmontable en tout cas.
Complètement. C'est vrai que les gens se font une montagne de voyager avec les enfants. C'est une contrainte, on va pas se mentir. Mais c'est comme beaucoup de contraintes dans la vie finalement.
Après, d'un autre côté, quand
on voit leur sourire quand ils s'émerveillent devant un papillon ou qui donnent à manger à des singes hurleurs ou qui sont en train que Eleanor prend son frère dans ses bras parce que il a peur des rats macao qui font du bruit à côté dans l'arbre parce qu'ils les voient. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de prix, quoi. Ça efface toutes les contraintes du monde.
Puis les vidéos, en fait, nous, à la base, ce qui nous fait le plus plaisir aussi, c'est d'avoir des souvenirs, en fait. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'on gagne notre vie en nous créant des souvenirs. C'est un peu fou.
En faisant ce qu'on aime, surtout.
C'est vraiment le job de rêve pour beaucoup, beaucoup de gens.
En tout cas, pour nous. Je pense que ça ne correspondrait pas à tout le monde, mais en tout cas, pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on aime profondément.
Voilà, donc merci d'avoir partagé toute cette histoire.
C'est avec plaisir.
Mais du coup, là, on a encore des gens qui sont là en train de regarder, qui se disent « mais c'est incroyable, ils sont super motivés ». qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour des gens qui veulent vivre une vie similaire? Quelle est la première chose à faire?
Ne pas écouter les autres.
Sauf vous.
Non, parce que ce qui s'applique à l'une ne s'applique pas forcément à d'autres.
C'est vrai. En plus, on ne donne jamais vraiment de...
Il y a beaucoup d'inspiration quand même d'explorer votre propre chemin, tout ça. Mais vas-y, je te laisse parler.
En fait, ce qu'on voit le plus dans les commentaires, c'est qu'on inspire les gens. Mais on ne dit jamais c'est ça ou ça ou ça qu'il faut faire, parce que je pense qu'il y a plein de possibilités. Par contre, on aime se dire qu'on inspire les gens à faire quelque chose de différent. Que ce soit partir sur les routes, voyager, ou démarrer son entreprise, ou quitter le boulot pour prendre un boulot qui nous plaît, même si on reste dans le salariat. Mais c'est pas s'emmerder dans quelque chose. Enfin, on n'a qu'une vie. Et ce qu'on essaie de faire passer comme message, c'est que on peut réaliser ses rêves, peu importe ses rêves en fait. Si son rêve c'est d'être footballeur professionnel, y a moyen, mais il faut s'en donner les moyens. Et il ne faut pas écouter papa et maman, bien souvent, ou le reste de la famille, ou les proches qui vont te dire « c'est pas possible, tu ne peux pas y arriver parce qu'il y en a très peu qui arrivent » ou parce que eux-mêmes ne savent pas comment on fait en fait. Et bien souvent on a été cassé par beaucoup de gens.
Heureusement que nous, entre nous, on croyait en nous parce que sinon je pense que.
Je pense qu'il faut prendre ça
comme. C'est très facile de se faire démolir en fait.
Mais il faut prendre ça comme une motivation en fait. Il faut se dire. Moi pendant longtemps j'ai voulu prouver aux autres que c'était possible. Et ça peut être négatif, on peut voir ça que, bah, qu'on fait ça pour les autres, mais au début ça m'a servi et aujourd'hui tout ce que je fais, j'ai changé ça, je le fais pour moi. Mais je pense que ça m'a quand même servi à me motiver dans la vie. Toutes les critiques que je me suis pris, et en fait je voulais prouver que c'était possible. Et aujourd'hui je suis super content qu'on y soit arrivé.
Super, bon donc voilà, et pour ceux que, donc, qui s'intéressent, vous pouvez aller voir les vidéos de la famille Cos si vous ne connaissez pas déjà, on a mis le lien vers la chaîne YouTube là juste en bas. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien, de découvrir un petit peu la méthode Blogueur Pro qui a donc fait démarrer.
Enfin, la première saison en 2011, début 2011.
Voilà, exactement. Bah, on a mis aussi le lien juste en dessous pour s'ouvrir aussi le livre « Vivez la vie de rêve » d'Assad Vodblog. Je crois que tu avais lu aussi,
tu t'avais
inspiré. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents. Faites partie des gens qui se bougent et qui explorent pour trouver leur propre chemin, comme ces deux charmants.
Merci beaucoup Olivier.
Merci Olivier, c'est gentil.
Un petit pouce pour les rebelles intelligents.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur? Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.